Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de l'émission Ensemble. Deux sujets au menu. Le premier concerne la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de cette journée, l'association Le Bercail, qui accueille des femmes ou des jeunes mères en danger, a organisé une exposition à la Maison pour tous du Pont-Neuf. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis lors du vernissage de l'exposition.
Nous voilà dans la salle de la Maison pour tous du Pont-Neuf à Chartres pour le vernissage d'une exposition qui est organisée dans le cadre finalement de la Journée internationale des droits des femmes par Le Bercail. À mes côtés, Ingrid Barthes, qui est la créatrice du Bercail, et puis Emmanuel et Saïda, qui sont deux mamans hébergées au sein du Bercail. On va peut-être juste quand même, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, rappeler ce qu'est Le Bercail, Ingrid.
D'accord, bonjour. Le Bercail accueille deux jours pour les femmes et avec enfants. On accueille des femmes enceintes dès le début de la grossesse et également des femmes avec enfants, des fratries. Il peut y avoir des femmes qui ont deux, trois, quatre enfants. Voilà. Et on les accueille à un moment où elles ont besoin de reprendre pied et de repartir sur un projet de vie et pour des raisons qui peuvent être complètement multiples. Ça peut être rupture d'hébergement, isolement social et familial, avoir envie de poursuivre sa grossesse tranquillement ou effectivement des femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à l'exposition, au vernissage de cette exposition qui s'appelle « Paroles de femmes libres ». C'est une exposition qui a été réalisée par neuf femmes qui ont été victimes de violences et qui ont eu envie de témoigner pour donner un message d'espoir à d'autres femmes pour leur montrer qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de repartir, de se reconstruire. C'est vraiment un message d'espérance.
Merci Ingrid. Je vais me tourner vers Emmanuel et Saïda qui sont donc deux des participantes à cette exposition. Déjà, moi je pense qu'on peut vous féliciter parce que ça réclame quand même du courage finalement d'être photographié et de témoigner. Est-ce que pour vous ça a été facile? Je me tourne vers Emmanuel.
Pour moi, ça a été assez normal de le faire, en fait. Ça a été assez naturel. D'abord, juste une petite précision, je ne suis plus hébergée au Bercail, ce qui fait qu'au moment où j'ai témoigné, j'avais déjà vécu plusieurs étapes au Bercail, j'avais déjà repris pied dans une nouvelle vie, mais très fraîchement. C'était quand même très récent, puisque je suis arrivée au Bercail le 11 janvier 2016. J'y ai passé un an. Et donc voilà, quand Madame Barthes m'a proposé de témoigner, oui, ça m'a paru normal et naturel de le faire.
En tout cas, c'était important de témoigner et de montrer qu'on doit parler, c'est ça. On doit parler, on doit prendre la parole, on doit passer outre sa peur.
En fait, c'était avant même un aspect militant, il y avait vraiment quelque chose de personnel qui était de reconnaître ce que j'avais vécu vraiment de très intime au Bercail par rapport à ce que je... En fait, j'ai un peu revisité ce que j'avais vécu très personnellement dans ma vie conjugale, dans mon départ. Et c'est vrai que ce départ, et comme je crois que c'est les mots que j'ai employés, même si je relis pas le témoignage que j'ai fait, mais a été vraiment un fondement dans ma vie, en fait. Il y a eu vraiment une prise de conscience qui s'est faite avec mon départ, en même temps que mon départ, qui s'est faite avec mon arrivée au Bercail. Il y a une nouvelle vie qui s'est ouverte à moi, qui est le fruit de mon départ, en fait.
C'est une nouvelle naissance, d'une certaine manière.
Oui, exactement. Et en même temps, j'ai aussi accueilli un enfant au Bercail, parce que je suis partie enceinte. Et c'est vrai que témoigner, en fait, a été un peu revisiter cette histoire. Et c'est vrai que c'était aussi la proposer, parce qu'il y avait quelque chose de beau, malgré tout. Dans ce départ, il y avait quelque chose dont j'étais heureuse dans ce que je vivais dans cette nouvelle vie. Et c'est vrai que j'étais contente de faire ce témoignage. Oui. Même si je reconnais que ça peut... C'est assez fort. C'est vrai que moi, j'ai même mis beaucoup de temps à lire les témoignages des autres mamans que je connais parce que c'est des moments qui ont été forts dans notre vie.
Oui. Le fait d'être, je me tourne vers Saïda à présent. Saïda, pour vous aussi, c'était important de prendre la parole, d'accepter d'être photographiée.
Oui, mais c'était pas. Pour moi, c'était important venir au Bercail avec mes deux enfants. J'ai resté plus que 8 mois. Et c'était, et vont m'aider, ils ont m'aidé beaucoup, parce qu'avant que je devenais, je sais pas parler, je sais pas rien faire tout seul en fait. C'était.
Oui, c'était très difficile. Vous aviez besoin d'être un peu.
Oui, j'étais enfermée. Je sais rien faire tout seul. Mais quand je suis devenue au Berca, il m'a appris beaucoup de choses pour défoncer tout seul.
Parce que vous êtes encore très jeune. Vous êtes toujours hébergée actuellement au Berca?
Non, pas. Je suis dans une maison avec mes deux enfants.
Oui. Oui. Et vous êtes heureuse?
Oui. Je sais pas comment j'ai changé. Je sais pas comment avant. J'ai beaucoup changé. Au Berca, il m'apprend pour je me débrouille toute seule. Je suis heureuse là. Oui.
Est-ce que c'est difficile? Je me tourne vers l'une ou vers l'autre. À vous de savoir qui va répondre, qui veut répondre surtout. Est-ce que c'est difficile de partir et pourquoi c'est difficile de quitter le domicile conjugal?
Pour moi, c'était difficile pour moi. Oui, c'était difficile pour quitter et tout, mais oui.
C'était difficile pour moi, difficile. En fait.
C'était très difficile, mais après, ça y est, j'ai compris. C'est bon.
Oui. Qu'est-ce qui est important de dire finalement? Souvent dans les phénomènes de violence conjugale, la femme se tient vraiment rancognée, elle n'ose pas aller vers le dehors évidemment, on est isolé j'imagine, c'est peut-être ça le plus difficile, non?
Oui. Enfin,
dites-nous parce que...
c'est vrai qu'on est très isolé. Après... Je pensais déjà répondre à la première question. En fait, oui, c'est très difficile de partir. C'est très difficile, surtout quand on est maman, qu'on a des enfants, qu'on a des jeunes enfants, voire quand on est enceinte. Parce que quand on part, en fait, on quitte tout. Et quand je dis tout, c'est-à-dire qu'on peut... Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'animal où on quitte le nid. Parce que quand on en arrive à une telle situation, souvent, et c'était mon cas, j'avais pas d'autonomie financière, j'étais conjoint collaborateur de mon mari qui est agriculteur. Donc en fait, ça voulait dire que j'allais partir à la sauvette sans savoir où j'allais. Et si on arrive au Bercail, c'est qu'on n'a déjà pas le réseau familial ou le réseau qui convient pour partir autrement. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'on part sans rien, qu'on sait pas où on va. Ça veut dire qu'il faut accepter, oui, un moment où...
C'est un saut dans l'inconnu, totalement, quoi.
Il y a un moment de vide où forcément il n'y a plus rien. Après, je crois que ce qui est important de savoir, c'est que c'est des choses que forcément on ne peut pas faire seul. Et si on le fait, si on trouve un lieu comme l'a été le Bercail pour moi, on peut trouver aussi des associations qui vont aider, qui vont aiguiller, qui vont éclairer, en fait. Et si on le fait, il faut avoir confiance qu'on ne sera pas seul. En fait, c'est pas évident, mais c'est vrai. Et d'une façon ou d'une autre, il faut trouver cette attache. Et il y a des professionnels qui sont chargés de nous montrer cette attache. Alors après, on nous la montre, on va le vivre quand même par soi-même. On va quand même partir seul. Il y aura quand même un moment, je crois, un moment pour tout où tout a vacillé. Mais effectivement. Par des œuvres, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas par le Bercail, on retrouve cette attache qui fait que oui, on n'est pas seul. Alors on part quand même dans l'inconnu, parce que rien ne se reconstruit, on part avec une idée du départ ou du... Je crois que ça a pour tout été plus dur que ce qu'on aurait imaginé, mais il se trouve aussi que je constate que pour toutes, ce qu'on a pu vivre après a aussi été plus beau que ce qu'on aurait imaginé.
Est-ce que vous me dites, si je suis indiscret, vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de répondre à mes questions, mais ces violences, elles duraient depuis combien de temps? Comment elles se sont manifestées?
Moi, elles se sont manifestées à partir de ma première grossesse. Alors après, c'est les manifestations. Après, on peut relire dans l'histoire des faits, mais physiquement, réellement, ça s'est manifesté à partir de ma première grossesse.
Et rapidement, ça a duré combien de temps? Il vous a fallu beaucoup de temps pour partir, pour avoir ce courage?
Moi, il m'a fallu du temps, en ce sens que déjà, la première grossesse, il y a eu une grosse alerte catastrophique. J'ai dû aussi jouer avec les travailleurs sociaux qui étaient inquiets pour moi et pour mon enfant. Donc j'ai dû aussi faire face à cette menace. Et il m'a fallu du temps, parce que j'y ai cru encore. J'avais beaucoup de représentations du mariage, de représentations positives. Et il m'a fallu attendre la deuxième grossesse. Et par contre, à la deuxième grossesse, là, je me suis dit, je me suis plus sentie capable de revivre.
D'accord, on comprend tout à fait votre émotion, Emmanuel.
Je ne me suis pas sentie capable à la deuxième grossesse de revivre l'effet de la première grossesse. Mais comme quoi, parfois, il faut beaucoup. Il faut beaucoup pour qu'un chemin se fasse, pour qu'un départ soit envisageable. Il faut aussi trouver les aides, il faut trouver aussi les intervenants et puis les bons intervenants. Parce que c'est vrai que lors de ma première grossesse, on m'a surtout fait peur avec un placement, mais on m'a pas donné de piste, on m'a pas donné réellement de chemin pour partir. Alors qu'avec ma deuxième grossesse, c'est moi déjà qui fais la démarche. C'est pas des professionnels qui m'ont alerté, c'est moi qui fais une démarche de départ, et les intervenants que j'ai eu en face m'ont donné des pistes pour partir. Et ça s'est fait. Et c'est vraiment sans regret et sans amertume.
Et vous, Saïda, alors ça a duré longtemps, ces violences conjugales, c'était...
Oui, moi aussi, c'est que quelques mois, parce que moi, c'était mon ex-mari, et il était psychologique, c'est ça il n'était pas bien, il a changé en danco. Il était bien, après, il a changé en danco, mais après, quoi, il n'est pas bien, il fait des menaces et tout. Moi, j'étais enceinte de 7 mois de mon petit. Le plus petit, j'ai le plus grand, il a 10 mois. Après, quand même, j'ai resté parce que comme je ne savais pas comment je vais faire. Je ne sors pas chez ma belle-mère et tout, mais je ne connais rien du tout. J'ai ma tante ici en France, c'est elle qui m'a aidée, m'a fait une assistance sociale. Après, parce que c'est mon ex-mari qui m'a pris et m'a ramené chez ma tante. Il m'a ramené avec mon fils et m'a jeté là-bas chez ma tante. Après, c'est ma tante qui m'a aidée, m'a fait l'assistance sociale et tout. Après, j'ai resté quelques mois, 3 mois, 4 mois à l'hôtel. Après, ma assistance sociale m'a aidée m'a trouvé pour le bercail parce que j'étais à plaisir. Comme ça, quelques mois, oui.
Alors, matériellement, est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous avez réussi à trouver un travail ou une formation? Comment ça se passe l'après?
Moi, j'ai eu la chance de retravailler assez rapidement. J'ai accouché au mois de janvier, enfin rapidement, oui, j'ai retravaillé au mois d'octobre, dans une nouvelle ville, dans un nouveau département. Et c'est vrai que c'est une chance. Après, est-ce que je m'en sors matériellement? Moi, j'ai aussi la chance d'avoir une prestation de secours de la part de mon mari, parce que je ne suis pas encore divorcée. Et puis après, ça va... C'est un peu un pas dans la confiance chaque jour quand même, mais ça va se faire.
Vous, Saïda, alors?
Pour moi, pour l'instant, je prends l'école française. Comme moi, je ne sais pas bien parler et tout, j'ai pris l'école française pour je savais bien lire, bien écrire, bien parler aussi.
Et vous avez un rêve, un désir de métier ou de faire quelque chose?
Oui, j'ai un rêve. Comme je regardais sur l'internet, je veux faire une formation pour la garde à la crèche ou travailler à la cantine avec les enfants. Oui, c'est ça mon rêve.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je me tourne pour une dernière question vers Ingrid Barthes. Quand on a évidemment à faire face à des situations aussi délicates, comment il faut beaucoup de doigté, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi l'essentiel?
Je pense que l'essentiel, c'est d'écouter, hein, et d'être présent, hein, d'accueillir à un moment où vraiment les femmes ont besoin de nous, hein, et d'écouter qu'est-ce qu'elles veulent en fait, quel est leur projet. C'est difficile de quitter un domicile, il faut les accompagner, il faut les accompagner dans leur démarche administrative, dans leur démarche personnelle, il faut les soutenir. Et effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à un moment où elles le demandent. C'est pas facile de quitter, elles l'ont toutes dit. Il faut beaucoup de courage. Moi, je souligne aujourd'hui ce courage. Je suis vraiment admirative Elles nous donnent une belle leçon de vie, en fait. Elles ont vraiment des soucis qui sont parfois inenvisageables, inimaginables, et elles ont une force, elles ont un courage qu'elles puissent, un courage, je pense, de vie, d'une espérance. Elles l'ont montré dans ce témoignage. Je pense que c'est 9 femmes qui ont témoigné, parce qu'il y a 9 portraits. Elles voulaient faire passer ce message qu'un avenir est possible, qu'il y a une espérance et qu'on peut s'en sortir, qu'on peut dire non à la violence, qu'on peut dire stop.
On remercie Ingrid Barthes, directrice de la résidence Le Bercail. On remercie aussi Emmanuel et Saïda. Nous leur souhaitons du courage et de la joie de vivre, l'espérance et puis évidemment de très beaux jours et de très nombreux jours devant elles. On écoute un peu de musique avant de retrouver Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loir, pour évoquer un tout nouveau dispositif baptisé HOP.
Out where the creek turns shallow and sandy, and the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, caring to catch a rover, fresh map that I made. Tonight I'm gonna get burnt naked, burn my old soul, and dance on this grave, and dance on this grave. It's been a long time coming, my dear. It's been a long time coming, but now it's here.
Vous venez d'écouter l'excellentissime Bruce Springsteen, Long Time Coming, extrait de l'album Devils in Dust. Le 27 novembre dernier, la préfète d'Eure-et-Loir, Sophie Broca, a lancé le dispositif intégré d'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale à Chartres. Cette initiative a été baptisée HOPE, hébergement, orientation, parcours vers l'emploi. Dans le cadre de ce dispositif, 12 migrants bénéficient à la fois d'un hébergement, d'une formation qualifiante, d'un contrat de professionnalisation, d'un enseignement du français et d'activités sportives et culturelles. Ils apprendront les métiers de la soudure pour lesquels les employeurs sont à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui répondra aussi à un besoin pour l'économie du département. Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loir.
C'est une expérimentation qu'on avait lancée à Paris avec l'AFPA et le Fonds du travail temporaire il y a un an et demi, pour effectivement permettre à ceux qui sont réfugiés, donc en situation régulière et qui ont obtenu la protection de la France, de pouvoir se former, apprendre le français, apprendre un métier et reprendre le chemin de leur vie sans dépendre de la solidarité nationale. On se retrouve avec des jeunes gens, des jeunes hommes qui ont traversé la mer, qui ont dû échapper à des passeurs, qui ont vécu au péril de leur vie ce rêve d'arriver en France, qui ont obtenu la protection de la France et qui sont extrêmement motivés. Donc c'est toujours très enthousiasmant de voir des gens qui sont pleins de sourires, pleins de volonté de s'en sortir et de pouvoir leur tendre la main, parce que je pense que c'est bien pour la France, c'est ses valeurs, et puis c'est bien pour ces hommes qui ont pris tous ces risques pour vivre.
Vous avez employé à dessein peut-être le mot « homme » parce que quand on a vécu effectivement toutes ces épreuves, quand on arrive en France, on n'est plus un jeune, on est un homme.
Oui, sans doute. Ils sont, cela dit, assez jeunes. Donc, ils ont aussi l'énergie de cette jeunesse. Ils sont forts et en bonne santé. Donc, oui, c'est pour ça que, sans doute, on devient un homme après tant d'épreuves.
Précisément, en quoi consiste le dispositif? Il y a de nombreux partenaires là en jeu.
Alors là, c'est une formule qui est intégrée, si je puis dire, puisqu'ils vont avoir... Ils ont été sélectionnés sur la base de leur intérêt, de leur capacité à parler le français. Il faut un minima parler le français pour comprendre les consignes de sécurité, les instructions pour apprendre son métier. Voilà, donc 12 ont été sélectionnés. Ils vont passer ici 6 mois. Ils vont avoir d'abord une période où on va leur apprendre du français professionnel. On va leur apprendre soudure, arc à souder, sécurité, etc. Et ensuite, ils auront une formation professionnelle sur la soudure, qui est un métier dans lequel les chefs d'entreprise ne trouvent pas d'ouvriers qualifiés. Donc
c'est peut-être bien de s'y arrêter. Ils viennent pas là pour voler le travail des Français. Hein. Je crois que c'est important d'insister peut-être là-dessus.
Oui. On les oriente vers des métiers où les chefs d'entreprise ne trouvent pas assez d'ouvriers qualifiés. Donc oui, bien sûr, ils viennent pour répondre. Ils sont attendus sur le marché de l'emploi. Donc ils vont apprendre ce métier. Ils auront une certification professionnelle à l'issue. L'expérience à Paris montre que 90% d'entre eux obtiennent le diplôme, ce qui est beaucoup plus que dans les groupes traditionnels. Et en même temps, l'AFPA leur propose un hébergement sur place, deux repas, un petit déjeuner. Et aussi, nous avons demandé à Humando. Humando, c'est l'entreprise d'insertion par l'activité économique d'Adeco, de venir soutenir l'AFPA pour accompagner l'ouverture des droits, les problèmes sociaux, etc., ce qui n'est pas le métier de l'AFPA. Donc voilà, c'est une offre intégrée puisqu'ils vont être logés, nourris, accompagnés et formés.
Vous l'avez dit, c'est à l'honneur de la France finalement, c'est un honneur pour la France et à l'honneur de la France d'agir ainsi.
Oui, je crois que voilà, si des personnes qui fuient la guerre, qui fuient l'État islamique, ont pris tous ces risques en se disant « j'irai à Paris », parce que c'est plutôt Paris qu'ils connaissent que Chartres, mais c'est bien parce que la France, depuis des siècles, diffuse dans le monde entier, de manière immatérielle, cette image de liberté, d'accueil. Voilà, on n'a pas vocation à accueillir tout le monde. Le président de la République a à rappeler régulièrement et avec force que ceux qui obtiennent la protection de la France parce qu'il est reconnu par les autorités indépendantes que leur vie était en danger et que les renvoyer dans leur pays signifierait leur mise à mort, alors ceux-là, ceux qui ont obtenu des papiers, doivent être accompagnés et doivent être traités comme tout citoyen pour pouvoir reprendre le chemin de leur vie.
C'est évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. Voilà, c'était Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loir, au sujet de ce dispositif HOPE, hébergement, orientation, parcours vers l'emploi, qui concerne donc 12 migrants. Voilà, cette édition de l'émission Ensemble se termine. On se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition. D'ici là, restez à notre écoute. Bien évidemment, tiens, je vous propose d'écouter un peu de musique et à nouveau le boss Springsteen avec The River.
Down at the reservoir at night on